Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir, pour la première fois, depuis le 17 novembre, trois représentants du mouvement des Gilets jaunes, du mouvement du 17 novembre. C'est peut-être comme ça que l'histoire le retiendra et le qualifiera plus tard. À mes côtés, donc, il y a Ludwig et Célia qui sont deux des quatre élus des Gilets jaunes, parce qu'à Chartres, les Gilets jaunes se sont donné des élus. Et puis, il y a également Laurent qui est un Gilet jaune pratiquant, si j'ose dire, mais non élu. Alors, on va évidemment revenir sur les événements de ces dernières semaines. Puis, je pense qu'il est important peut-être apprendre à mieux vous connaître. Pourquoi vous, personnellement, vous avez choisi de vous embarquer dans cette, ce qui est devenu réellement une aventure, hein, du coup, une grande aventure politico-démocratique, en tout cas. Voilà. Alors, je vais commencer par vous, Ludwig. Comment avez-vous rejoint le mouvement? Pourquoi? Et dans quelles conditions?
Personnellement, j'ai découvert le mouvement, comme beaucoup d'entre nous, je pense, sur des groupes de Facebook qui étaient à l'origine des hausses de taxes de carburant. Donc j'ai rejoint le mouvement suite à un appel à mobilisation de ce fameux 17 novembre. Et petit à petit, on s'est rendu compte que la hausse des taxes de carburant n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder un vase qui était déjà quasi trop plein. Donc par la suite, j'ai continué à suivre le mouvement, à m'y engager de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, et on continuera jusqu'à ce qu'on ait au moins une obtention et une satisfaction des requêtes qui sont formulées au niveau au moins national.
Ouais. Je me tourne vers Célia.
De mon côté, deux raisons particulières. Déjà, mon métier, je suis infirmière, donc manifestation, revendication, j'en ai déjà plus d'une concernant mon milieu professionnel. Mais du coup, là, si j'ai vraiment rejoint les Gilets jaunes, c'est vraiment un investissement personnel. Comme le dit Ludwig, pareil, c'était un appel à mobilisation. Je n'étais pas là le week-end où ça a commencé, mais dès le mardi, j'ai rejoint les ronds-points et je n'ai pas arrêté. Voilà, en relais, de mon côté, surtout de nuit. Et effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire que toutes les conversations que j'ai eues aujourd'hui avec les Chartrains ou même avec la population française, que ce soit sur Paris ou ailleurs, je pense qu'on est tous raccord. Effectivement, il y a un gros ras-le-bol. Et pour l'instant, on ne lâchera rien.
Le ras-le-bol des infirmières, on le sait depuis fort longtemps. Les conditions de travail sont extrêmement difficiles. Il y a un manque de personnel.
Manque de personnel, manque de budget. Aujourd'hui, on n'a plus aucune reconnaissance. Donc, ça devient vraiment compliqué. Disons que moi, le métier qu'on m'a appris en théorie et en pratique, aujourd'hui, je ne peux plus du tout le mettre en place.
Mais vous êtes infirmière hospitalière?
Fait de l'hospitalier, j'ai fait de la clinique et aujourd'hui, maison de retraite.
Maison de retraite. Les conditions sont difficiles aussi.
Exactement.
Hein, maison de retraite.
On est deux infirmières pour 90 résidents.
Laurent.
Bonjour.
Bonjour.
Donc j'ai rejoint le mouvement aussi le samedi 17 novembre, suite à l'appel de la mobilisation. Principalement... avec un groupe de motards, pour commencer. On est venu en appui, hein, parce qu'on s'est dit que les motards sont une grande famille, donc on s'est dit que ça allait forcément faire du bien aux Gilets jaunes. Et puis en fait, je me suis aperçu que la hausse des carburants, comme l'a dit Ludwig, cette fameuse taxe, en fait, c'était juste un élément déclencheur de quelque chose qui est enfoui depuis des années, finalement, qui est étouffé. Et là, qui est en train de ressortir, qui est ressorti maintenant, hein, très fortement. Et je me suis rendu compte, en fait, que il y a des gens qui sont vraiment très mal, quoi. Ils sont très, très, très en colère. Moi, aujourd'hui, je dis que je ne suis pas un gilet jaune, en fait, légitime, dans le sens où mes filles, par exemple, à la fin du mois, aujourd'hui, elles ont à manger. Mais par solidarité, donc je me suis vraiment investi dans ce mouvement-là, puisque de toute façon, à un moment donné, quand ils pourront plus taper sur ces gens-là, ils viendront taper sur les autres, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on se réveille tous, y compris les gens qui sont dans la misère aujourd'hui déjà, ils se sont réveillés. Mais il y a aussi les gens aujourd'hui qui vivent encore bien. Mais si on les aide pas, ces gens-là, et qu'on se met pas tous ensemble, à un moment donné, on finira par y passer, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment pour ça que je me suis investi, et pour mes enfants, pour mon avenir personnel à moi, pour ma famille, ma grand-mère qui est à la retraite, voilà.
Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que vous êtes tous les trois jeunes. Si, ne faites pas la tête, je vous assure que si. Je suis allé sur le rond-point, donc au propre-pied, là, sur la route de Paris. C'est vraiment, il y a de tous les âges. C'est autant de femmes que d'hommes et des horizons professionnels très différents aussi.
Hein. Tout à fait.
C'est ça, on est très, très, très hétéroclite. Je trouve que le mouvement représente bien la population française. Que ce soit du point de vue social, où on a du chômeur, de l'artisan, du chef d'entreprise, du salarié, du tout milieu confondu, ou toute situation personnelle aussi confondue. On a de la mère célibataire, on a du célibataire, on a des gens en couple. On est vraiment à l'image, je trouve, du moins, de la société française en règle générale.
Ouais. Alors sur les motivations, vous parliez tout à l'heure du carburant, c'est-à-dire qu'au départ effectivement c'était ça, et maintenant on n'entend pratiquement même plus parler de ça en fait, on a l'impression qu'il y a une petite porte qui a été ouverte et puis tout est sorti d'un coup, tout ce qui était...
Un catalyseur de la colère.
Exactement ça, quoi. Là, comme vous dites, là, pour reprendre notre expression, la porte elle est entr'ouverte, on a mis le pied, maintenant on ne laissera pas se refermer concrètement. Ouais. Et puis... notre cher président a courbé un petit peu les chines avec la taxe, en annulant la taxe, d'abord par un moratoire, puis finalement pour l'annuler complètement, pour 2019. Concrètement, ça, on s'est reculé pour mieux sauter, on s'en doute clairement. Mais on ne peut pas se satisfaire concrètement de cette décision, puisqu'il retire quelque chose qu'on n'avait pas. Donc aujourd'hui, ça ne change rien à personne. Donc on ne va pas s'en satisfaire du tout, quoi.
Alors maintenant, quelles sont justement les revendications, quoi, parce qu'elles évoluent effectivement au jour le jour. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est pratiquement le gouvernement, ou en tout cas une manière de gouverner. Et puis la personne du président, ce qui était assez inattendu compte tenu de l'engouement qu'avait suscité sa candidature aussi, hein, il y a un moment des présidentielles.
Tout à fait.
Disons que les revendications ont évolué, autant prendre l'exemple aujourd'hui de Chartres et des coordinateurs, disons qu'on a mis en place une adresse mail, puisque justement il est temps quand même un petit peu de comprendre ce que la population française réclame, et du coup à force de recevoir des mails, on a pu se rendre compte, donc on a été obligé de choisir un nombre, c'est-à-dire 10 revendications maximum, hiérarchisées, du coup, on a commencé... on a quelqu'un qui nous aide énormément aussi, pareil, et qui a commencé à faire un petit peu une synthèse et à récupérer. Effectivement, la taxe sur la hausse du carburant n'apparaît quasiment pas ou très peu. Mais effectivement, on a plusieurs domaines, politique, social, Europe, automobile, fiscal, service public, écologie. Plein de
écologie,
thèmes différents.
Donc ça, c'est important de lire, parce que... notre gouvernement disait, ils sont pas écologistes, ces gilets jaunes qui sont contre la hausse de la taxe.
Non, tout à fait, c'est vrai qu'on est tous des fumeurs qui roulent au diesel, répondre à ce gouvernement.
Benjamin Castaner, au journal du dimanche, si mes souvenirs sont bons.
Non, mais clairement, l'écologie, bien sûr, on est tous... faut comprendre que notre planète, on n'en a qu'une, et que ce soit surtout pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants, etc., c'est important de la conserver, mais si je ne me trompe pas, je pense qu'aujourd'hui, la France représente 1% de la population mondiale. On nous demande de montrer l'exemple, en gros, c'est-à-dire de payer par des taxes, alors qu'à côté, il y a d'autres choses, je pense, à taxer, plutôt que simplement le petit contribuable comme nous, quoi, en fait. À chaque fois, on s'en prend en particulier, mais l'argent, le problème, c'est qu'ils n'en ont plus, quoi. Donc il faudrait peut-être aller taper là où il y en a, quoi.
Là où il y en a, c'est-à-dire les grandes fortunes. Parce que, par exemple, le retour de l'ISF est toujours
d'actualité. Bien sûr. Oui, c'est une revendication qui revient énormément.
Le retour de l'ISF fait partie, entre guillemets, donc suite à l'intervention de Célia, je tenais juste à rappeler pour les auditeurs s'ils veulent nous envoyer leurs doléances, leurs requêtes ou quoi que ce soit, c'est à l'adresse mail suivante, giletjaune28@gmail.com, donc tout au singulier. Nous, ça nous permet de pouvoir synthétiser les doléances qu'on reçoit. Donc là, aujourd'hui, à l'instant T où on se parle, on a déjà eu quasi entre 150 et 200 mails qui nous sont arrivés pour Chartres et Agglo. On commence déjà à synthétiser, et on voit très nettement des revendications qui se détachent d'autres, quoi. Donc là, par exemple, là maintenant, c'est la fin du traitement à vie des anciens présidents, ministres, plafonnement des indemnités pour que la politique devienne une vocation altruiste et non plus un métier. Bien sûr, derrière, en top priorité, on a l'augmentation du SMIC, des retraites et l'augmentation du pouvoir d'achat en général. Mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, on a une bonne partie qui réclame aussi la sortie de l'Europe et de l'euro sur un référendum. Voilà, donc on est très très loin du juste petit sujet taxe carburant. C'est devenu vraiment quelque chose qui s'est répandu sur un malaise de société en général qui traîne depuis des années, quoi.
C'est transgénérationnel, ça, on l'a déjà compris en allant sur le rond-point. C'est aussi transpolitique, transpartisan, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens de gauche, de...
On n'en parle pas, en fait.
Disons, comme on l'a dit, les Gilets jaunes, c'est apolitique, asyndical. Donc si une personne se sent concernée par le mouvement des Gilets jaunes, elle met tout le reste de côté, met son Gilet jaune et elle revient en tant que citoyen.
Pour autant, je veux dire, quand je lis ce que vous venez, j'écoute ce que vous venez de dire, ça fait un programme, quand même. Ça fait un programme, c'est intéressant, je veux dire, ça peut déboucher sur des propositions.
Ça pourrait être tout à fait un programme à part entière, sauf que ce programme, ça fait des années que les citoyens français le réclament auprès de nos politiques et qui nous tendent une oreille sourde et absente.
Je voulais savoir, du point de vue socio-professionnel, on parle donc d'une révolution des classes moyennes, est-ce que vous êtes d'accord C'est à peu près ça, non ?
Pas avec le terme révolution. On appelle ça une évolution.
Évolution.
Là est la nuance.
D'accord. Mais c'est bien les classes moyennes qui expriment leur souffrance.
Pas que.
Pas que ?
Non. Pour moi, c'est toutes classes confondues.
Ouais, c'est général.
Ouais, c'est général.
Parce que finalement, classe moyenne ou pas, on paye tous. Mm. Et là, en fait, on en a marre de payer parce qu'on paye de plus en plus.
Ouais, et toutes les classes moyennes tendent vers le bas. Non, c'est vraiment toutes classes moyennes, non ? Et puis j'ai rencontré des dentistes, ils ne font pas partie de la classe moyenne.
Non, ça saurait.
Ça saurait. Donc non, c'est vraiment toute génération.
On a
toute
du chef d'entreprise aussi qui nous rejoint régulièrement.
Oui, j'ai eu un jeune auto-entrepreneur de 18 ans, je me souviens, que j'ai vu là sur le rond-point, et des retraités, effectivement, c'est tout à fait transgénérationnel. Je voudrais qu'on parle maintenant, parce que vous êtes allés tous les trois, à un moment ou un autre, manifester à Paris. Donc depuis le 17 novembre, et ça m'intéresse de savoir comment vous avez vécu ça. Est-ce que le traitement médiatique de ces événements vous convient ? Comment vous avez Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous y avez vu et vécu chacun ? Ludwig.
D'accord. Donc moi, je me suis rendu sur la capitale en covoiturage avec mon épouse la semaine dernière. Donc pas le samedi qui vient de passer là, mais le samedi d'avant, samedi 1er décembre. Donc on est monté à Paris en voiture, on a réussi à trouver une place pour se stationner pas très très loin des Champs-Élysées. Moi déjà, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est que malgré toutes les facilités que le gouvernement voulait nous donner pour nous donner accès à une manifestation libre et pacifique, on est tombé sur trois cordons de CRS qui nous bloquaient vraiment interdiction d'accéder aux Champs-Élysées. Donc on a essayé de contourner ces barrages à plusieurs reprises, en passant par différents accès, différentes rues, on est toujours tombé sur un cordon de CRS. Donc quand on se présentait à eux, l'accueil était autoritaire et distant, aucun problème, ils étaient tout à fait dans leur rôle, mais par contre, on sentait qu'ils étaient tendus. La suite, après, des événements leur ont donné quand même plus ou moins raison avec toutes ces scènes qu'on a pu assister. Néanmoins, au bout d'un moment de tentative de contournement de ces barrages, on s'est retrouvé sur l'avenue de la Grande Armée, et sans vraiment comprendre ce qui se passait, on a été confronté aux nuages de gaz lacrymogène, aux grenades détonantes et aux canons à eau, alors que on arrivait juste dans la rue. En effet, il y avait des barricades en feu, des manifestants plus virulents que d'autres, ça j'en conviens tout à fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, après, c'est vrai que en mettant un petit peu à la place des forces de l'ordre, c'est parfois un peu difficile de faire aussi le distinguo entre la foule pacifiste qui est là et, j'ai envie de dire, les intrus qui sont entre nous beaucoup plus virulents et qui veulent en découdre avec la police. Donc on peut dire que le Parisien a le sens de l'accueil, puisque c'était festif, hein, des petits pétards d'accueil, des feux d'artifice de lacrymogène, des barbecues un peu partout. Voilà, par contre, pour ma part, hormis cette période sur la Grande Armée, on était quand même très très loin des scènes de limite guerre civile que les médias voulaient nous présenter. Ouais. Il y a eu quelques points chauds, quelques points très chauds, j'en conviens tout à fait, mais c'était pas un embrasement de la capitale non plus.
Ouais. C'était très localisé.
C'était localisé, et après, en effet, quelques petites, entre guillemets, quelques petites escarmouches qui ont eu lieu et qui se sont prolongées après dans le temps avec les forces de l'ordre. Mais la plupart du temps, quand j'ai assisté à ce genre de choses, les gilets jaunes, j'ai envie de dire pacifistes, entre guillemets, les vrais gilets jaunes, se retiraient de ce champ d'action et voilà, les casseurs étaient face aux forces de l'ordre.
Célia, comment vous avez vécu?
Écoutez, le premier samedi, parce que j'y suis allée le 24 du coup novembre et le 1er décembre, le premier samedi, je l'ai très 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 mal vécu. C'est-à-dire qu'une fois rentrée, j'ai, voilà, par hasard, moi aussi allumé la télé pour regarder les médias. Et entre ce que j'avais vécu l'après-midi et ce que j'étais en train de voir, je crois que j'ai jamais senti autant de rage monter que ce soir-là. Donc effectivement, que ce soit du coup le samedi, enfin les deux samedis pour le coup, disons qu'au départ, ouais, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Pour le coup, j'allais pas en avant, mais je restais effectivement dans les foules des gilets jaunes. Et c'est vrai que d'un coup, on entend « attention, ça charge » ou « attention, ça arrive ». Effectivement, on se retrouve vraiment noyé au milieu des gaz, voilà, les ceux qui piquent. On se rend pas vraiment compte. Ouais, effectivement, on se dit « je monte pour... » Voilà, j'ai pas d'armes, je monte, je viens pacifiquement, je veux faire entendre ma voix, j'ai quelque chose à dire.
Et qu'est-ce qu'on ressent quand on prend ça dans la figure? J'imagine qu'on est un peu désorienté, mais aussi on se sent en colère, j'imagine.
Ouais, en colère. Mais pour le coup, voilà, je pense que... Beaucoup de personnes, comme on dit, voilà, pas les intros, mais beaucoup de personnes, beaucoup de gilets jaunes ont compris et justement essayé de se canaliser, d'accord, effectivement, c'est du coup, on est en colère, mais voilà, on n'est pas venu pour ça. Si on doit répondre, on répondra. Mais je pense pas que les gilets jaunes, quand ils sont montés sur Paris, sont montés avec dans la tête, on attaque, on frappe. Non, c'est pas du tout c'est pas du tout la mentalité, oui, des gilets jaunes aujourd'hui. On reste dans le pacifisme, même si effectivement, bah, ça nous fait mal, ça nous fait peur, ça nous énerve de voir tout ce qui se passe, effectivement, que ce soit des jeunes, des fois matraqués, que ce soit des personnes âgées ou des retraités qui se font gazer, qui n'ont rien demandé, mais comme ils sont à l'arrière et bah, qu'ils ont du mal à courir, nous, on vient les chercher, on les récupère, mais trop tard, c'est déjà fait, c'est déjà gazé. Ouais, effectivement, rien que d'en parler et d'y repenser, ouais, j'ai autant les larmes aux yeux qu'une colère qui monte. Et puis, un exemple parmi tant d'autres, mais le tout premier samedi, c'était vraiment, vraiment pour le coup pacifique, on ne s'attendait pas à ce qui allait, entre guillemets, se passer. Et je sais que moi, je me suis retrouvée à un moment place de la Concorde avec plein de personnes, mais pour chanter la Marseillaise. Donc vraiment chanter la Marseillaise. De toute façon, il y avait de la population partout, des Parisiens partout. Et là, d'un coup, deux jets de gaz qui arrivent sur la place. Pourtant, il y avait des voitures. Pourtant, il y avait des gens qui prenaient des cafés. Pourtant, il y avait des bus de touristes. On chantait, on filtrait un peu. Mais voilà, pas de haine, pas de casse, pas de... Et là, bim, on se retrouve gazé. Alors moi, c'est un des exemples là, sur les deux samedis qui me reste en tête et qui m'a le plus choqué. Et pourtant, ce n'est pas ce type d'exemple qu'on voit aux médias.
Alors, rappelons que les CRS ne font qu'obéir aux ordres aussi du
préfet. Je l'entends aussi, je ne l'en ai pas sûr, mais la scène...
C'est toujours politique. Ouais. C'est toujours une décision politique avant que d'être une décision politique.
Je suis tout à fait d'accord. Par contre, le CRS peut faire peut-être un petit peu preuve de discernement quand il en arrive, entre guillemets, au corps à corps, à utiliser la matraque et le tonfa entre une personne âgée qui vient manifester et un gamin de 20 ans qui peut courir très vite. De là à aller... Je vais pas dire fracasser du manifestant, parce que je pense pas que ce soit la majorité de tous les CRS. Enfin, je l'espère du moins, mais juste ce manque de discernement, quoi. Entre même une personne plus jeune, valide, qui soit virulente, je comprends à la limite qu'il se fasse interpeller manu militari ou violemment. Mais de là à aller matraquer une personne âgée, ou dernièrement, sur quelques vidéos, on peut voir un fauteuil roulant renversé. Il y a peut-être un manque de discernement aussi du personnel des forces de l'ordre.
Laurent, comment avez-vous vécu, vous, votre odyssée parisienne?
Le premier samedi, je l'ai vécu comme beaucoup le soir en rentrant devant ma télé, en fait, puisque j'étais sur place en local, le premier samedi, le 17. J'étais choqué de voir, pour reprendre un petit peu les propos de Célia et Ludwig, les personnes âgées se faire gazer gratuitement, matraquer. J'ai pas compris en fait la réaction des CRS pour des gens qui venaient manifester. J'y suis pas allé le premier samedi parce que on sait très bien que dans les grandes villes ça s'enflamme très vite, que les casseurs viennent se joindre aux manifestants. On le sait, c'est pas un secret, c'est dans toutes les manifestations il y en a.
Oui, maintenant, depuis quelques années, dans toutes les manifestations, quelles qu'elles soient, il y a toujours une corde de casseurs qui vient se joindre voilà, à celle des manifestants.
Et donc du coup, ça m'a décidé le samedi d'après d'aller voir de mes propres yeux, en fait, parce que bon, les médias diffusent entre guillemets ce qu'ils veulent. On a vu beaucoup de choses sur Facebook aussi, sur les réseaux sociaux particulièrement passer. Donc je me suis dit, je vais aller voir par moi-même, quoi. Et donc j'étais voir, donc j'ai pas été déçu. Et
parce que vous êtes tombé sur la pierre, hein, c'est ça.
Voilà, donc moi dès donc j'y suis allé donc le 1er décembre. Contrairement à Ludwig, je suis allé un peu plus directement dans le centre de Paris le samedi matin. J'étais dans une rue parallèle à l'avenue de la Grande Armée. Donc on a mis nos gilets jaunes, hein, sac à dos, et on avançait en fait, puisque nous avions le droit de manifester sur les Champs-Élysées, sous réserve d'une fouille. Mais bon, fallait bien à un moment donné qu'on rallie donc l'avenue des Champs-Élysées en passant par la place de l'Étoile où il y a l'Arc de Triomphe. Et donc on remonte cette avenue parallèle, et là en fait d'un seul coup, donc à 9h arrivé, 9h10, on est dans l'avenue et on se prend un défilé de lacrymo en fait, hein, qui arrive de je ne sais où en fait, hein, d'une compagnie de CRS qui était devant nous. Clairement le but c'était de nous disperser. Mais à un moment donné, si on nous donne le droit de manifester et qu'on ne peut pas s'y rendre, comment ça se passe? Donc là, dès le matin, ça a commencé à s'échauffer un petit peu, les esprits. Les CRS ont fini par reculer. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a avancé, on s'est dit, c'est bon, ils nous laissent passer finalement. Et en fait, en tournant un petit peu le dos, on s'est aperçu qu'il y a une autre compagnie de CRS qui arrivait derrière. Hein. Donc là, on en est à un coin où c'est une souricière concrètement. Hein. C'est-à-dire que pour vous échapper, c'est sur les côtés, pas le choix. Hein. Donc là, on s'est mis à prendre les petites rues adjacentes pour finalement se retrouver donc avenue de la Grande Armée, où donc là, nous apercevons l'Arc de Triomphe, nous montons, et arrivé en haut, on nous laisse passer. Donc on va dire qu'en trois quarts d'heure, une heure, la place de l'Étoile s'est très bien remplie, et au bout de ce trois quarts d'heure, une demi-heure, on s'aperçoit que les 12 ou 13 artères, je ne sais plus exactement combien il y en a, qui débouchent sur la place de l'Étoile, sont toutes en fait en train d'être fermées par des cordons de CRS. Donc on se retrouve concrètement au milieu des cordons de CRS, et quand vous essayez de ressortir par les rues adjacentes au bout d'un moment, vous pouvez pas, on vous l'interdit de sortir. Et dès que vous vous approchez des CRS, c'est du gaz à lacrymo, du gaz à lacrymo, du gaz à lacrymo, des grenades dispersantes, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Donc moi en gros de 9h jusqu'à 15h30, 16h moins le quart à l'heure à laquelle j'ai quitté Paris, on a mangé de la lacrymo sans cesse, sans cesse, sans cesse.
Vous êtes immunisé à vie là.
on était équipés donc ça va.
Ouais.
Mais sincèrement, et on pouvait même pas manifester pacifiquement en
oui,
fait.
Oui.
On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. On s'est fait agresser littéralement tout de suite. Au fil de la journée, la tension est montée, la population change, donc certains gilets jaunes deviennent agressifs. Forcément, ils répondent hein, parce qu'au bout d'un moment, quand vous en prenez plein la tronche régulièrement, ça convient plus. Et en fin de journée, y a nos chers amis les casseurs qui viennent se mêler à tout ça, où là, par contre, le discours n'est plus le même. On le voit de toute façon par le biais des médias, hein, le gilet jaune a l'intelligence de se replier dans ces moments-là, et on fait bien le distinguo entre les casseurs et les gilets jaunes. Et je pense que l'opinion publique qui est derrière les gilets jaunes, ça l'a très bien compris, et je pense que notre gouvernement aussi par rapport à ça s'attendait à un essoufflement du mouvement et un manque de soutien de la population en général, et c'est une chose qui n'est pas arrivée, et faut remercier tous les gens qui viennent pas manifester mais qui nous soutiennent quand même, mais finalement ça a permis au mouvement de pas s'essouffler, et voilà, donc il y a une prise de conscience quand même des gens quoi.
D'ailleurs, juste pour ajouter sur les gilets jaunes entre guillemets à Paris, puisque beaucoup se disent oui, c'est souvent ça peut être ceux du coin. Non, j'ai rencontré des Ardéchois, Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux, certains qui venaient de Caen, de Bretagne. Donc c'est vraiment toute la France hein, qui se déplace sur Paris. C'est pas les régions proches.
Oui, bien sûr. Oui. Il nous reste 5 minutes. De toute façon, on reparlera, je pense, d'ici quelques jours. On refera une émission, mais il y a une revendication qui a monté un peu, je l'entends un peu plus aujourd'hui qu'hier, c'est celle d'une 6e République. C'est un projet politique qui avait été notamment proposée par Arnaud Montebourg ou par Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que une sixième république, ça refondait tout simplement la nation? Est-ce que ça vous intéresse, ça, plutôt qu'une suite de réformes ou
Pour ma part, je pense que l'établissement et la création d'une sixième république, ça pourrait être une évolution de la cinquième république. Et ça permettrait surtout de repartir et de faire table rase du passé et de repartir sur des bases saines.
Des bases tenues par le peuple.
Voilà. Oui. Symboliquement, déjà, on laisse tomber l'ancien monde, comme ils aiment à le nommer dans les médias, pour repartir sur quelque chose de sain, de neuf et d'une structure totalement nouvelle.
Ce que vous demandez, finalement, c'est de pouvoir être partie prenante, c'est ça ?
De
votre destin, quoi, finalement.
Le peuple français est prêt.
Oui.
Il le fait bien sentir ces dernières semaines. Il est prêt à prendre les rênes de son pays.
Le voit dans les revendications qui nous sont envoyées par mail.
Et comment est-ce que vous réfléchissez à... Parce que ça demande des modalités. C'est un travail de titan, ça. Est-ce que ça commence à gamberger aussi chez les Gilets jaunes, savoir à quoi ça pourrait ressembler, la France de demain?
On parle beaucoup de la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. On entend plus souvent ce mot-là. Donc c'est déjà une première chose, je pense, qu'il faut mettre en avant. Il faut nous donner la parole. Tous les présidents ont dit oui, on fera des référendums. J'ai pas souvenir d'en avoir eu beaucoup, en fait. Voilà. Et surtout aussi, le comptage des bulletins blancs est au-delà de 50% révocatoire lors des votes.
Ouais.
Voilà. Après, je pense qu'il y a deux issues aujourd'hui à ce mouvement ou à cette crise. Je sais pas comment on pourrait dire vraiment. Soit concrètement, les choses vont au bout et le gouvernement tombe avec une division totale du président et de l'Assemblée et tout ce qui va avec. Ou alors les mesures qu'on attend sont prises, mais aujourd'hui, quoi. C'est pas demain.
Ces mesures, si j'ai bien compris, c'était pas du tout dans le programme d'Emmanuel Macron, sortie de l'euro, renégociation des traités, etc.
Absolument
ça veut
pas.
Dire que oui.
Quand on ne serait-ce que survoler ces revendications sans forcément les approfondir, on ressent directement que le citoyen veut reprendre les manettes du pouvoir du pays et non plus déléguer simplement à une partie de la population le destin de la nation. Quoi. Tout simplement, le Français est prêt à reprendre les rênes du pays directement et démocratiquement.
Ouais.
Nous trois, là, ici, on est avant tout gilets jaunes. Quoi. On n'est pas là pour dire faut que ce soit comme ça.
Vous êtes des porte-parole d'une minorité silencieuse, une majorité silencieuse.
C'est notre rôle.
Enfin, qu'il l'était, silencieuse, qu'il n'est plus.
Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on s'organise de façon à centraliser les choses. Parce qu'on ne peut pas tous aller au front. Mais il faut quand même arriver à scinder les choses, à dégrossir au maximum. Que tout le monde puisse porter sa parole quand même. Quoi.
Est-ce que les Gilets jaunes pourraient devenir tout simplement une formation politique?
Ça, c'est la question.
Je ne suis pas sûre. Là, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour le début, les Gilets jaunes, ça a été surtout un renouveau et un petit peu un vent d'espoir, je pense.
D'accord,
c'est
une première étape.
C'est une première étape et une belle étape, je trouve.
Oui. Ouais. Demain, qu'en est-il? Alors là, au moment où on enregistre, Emmanuel Macron n'a pas encore prononcé son allocution, mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous faire quand même changer d'avis et rentrer à la maison aujourd'hui? Ça va pas être facile. On le sent parce qu'en plus, il y a une forme de vie communautaire qui s'est développée sur les ronds-points, sur les lieux.
Énorme solidarité.
On s'aime bien, quoi.
Justement, non, d'aventure humaine. Ouais.
Pour reprendre ce mot, il y en a beaucoup qui mettent sur les réseaux que les Français ont retrouvé la fraternité.
Ouais.
Mais qu'il nous en manque deux encore maintenant.
C'est ça.
L'égalité et la liberté.
Exactement.
C'est ça. Mais je pense que le discours de M. Macron, son élocution de ce soir, déjà arrive trop tard. Je pense qu'il a eu un mépris réel du peuple à envoyer son Premier ministre en tant que fusible, concrètement. Mais même si le fusible y craque, de toute façon, ça changera strictement rien, puisqu'on sait très bien que c'était à M. Macron de prendre la parole. Je pense que ce soir son discours il aura un impact si effectivement pour les Français demain matin ils se réveillent et que leur pouvoir d'achat a changé, mais si c'est pas le cas concrètement le mouvement ne s'éteindra pas.
Merci à tous les trois, on aura sans doute L'occasion peut-être de se revoir, hein, en studio, de refaire
je pense.
Un enregistrement et puis de continuer plaisir. De parler. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus jusqu'à nous. Merci à Simon qui était en régie et reste à l'écoute des programmes de Radio Grand Ciel. La radio qui, dit-on, rapproche les hommes.